d'être à 17h au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Beaucoup de femmes de la commune rurale de Bazaga, département de Koni, ont du mal à se rendre au centre de santé de cette commune pour des raisons d'insécurité. Des précisions sont à suivre dans un instant. Dans le département de Tessawa, région de Maradi, des cas de vol de bétail et de cambriolage des boutiques prennent de l'ampleur. Le préfet de Tessawa se prononce dans un instant. Le magazine Justice de ce lundi nous édifie sur la nuance entre la liberté provisoire et conditionnelle pour un détenu. Dans la commune rurale de Bazaga, département de Koni, les femmes préfèrent l'accouchement à domicile que de se rendre au centre de santé de cette commune. Pourquoi cette réticence? Élément de réponse avec Dr Bagouma, chef à service santé de Bazaga. Il est au micro de Asman Moussarzika.
Il arrive que des femmes enceintes entrent en travail en pleine nuit, mais avec la situation d'insécurité, elles ne peuvent pas venir vers les centres de santé. Finalement, elles accouchent à la maison. D'autres disent qu'elles ne peuvent même pas trouver une moto pour aller vers ces centres de santé. Seulement, ces cas ne sont pas fréquents. Par mois, on ne dépasse pas un ou deux cas. À la fin de chaque mois, nous avons les statistiques des femmes qui ont accouché à la maison et celles qui ont accouché à la maternité. Celles qui accouchent à la maison, on nous explique que c'est parce qu'elles sont entrées en travail pendant la nuit. Donc, elles ne peuvent pas bouger à cause de l'insécurité. Même au cas où cela arrive, la maman et le bébé sont acheminés dans les centres de santé de très bon matin.
Et dans le département de Tessawa, région de Maradi, la situation sécuritaire est stable, mais on enregistre des cas de vols de bétail et de cambriolages de boutiques. Ce petit banditisme constitue un fléau majeur dans la zone. La conjugaison des efforts entre la population et les forces de l'ordre est en train d'apporter une solution à la situation. Pour plus d'explications, suivons Moumouni Salifou, préfet de Tessawa, au micro de notre envoyé spécial Habiba Ahmed.
Ici, au niveau de Tessawa, ce qui nous préoccupe, c'est le petit banditisme et c'est le vol des petits bétails ou des animaux, le cambriolage ou le vol des boutiques dans les centres urbains. Et cela est fait par des individus organisés en bande qui sont mobiles et qui opèrent dans les localités voisines aussi. La plupart d'entre eux sont étrangers à nos localités. Et pour les gérer, on a les moyens de patrouille qu'on renforce tant au niveau des centres urbains qu'au niveau des communes rurales pour contenir ce phénomène-là. Donc on a aussi l'appui des populations qu'on sensibilise pour nous donner des informations à temps réel pour pouvoir intervenir avec efficacité. Voilà, nous sommes en train de gérer la situation.
Après un arrêt des activités du site de Guidandaka pendant 2 semaines, les activités ont repris hier. Cet arrêt de travail est intervenu suite à une imposition douanière sur chaque camion transportant de l'or en provenance de Tchibarkaten. Cette imposition est exorbitante selon les orpailleurs. Écoutons Yahya Sidi Amar, président du comité, au micro de Ousmane Omarou.
Les activités se sont arrêtées pendant 2 semaines. Et suite à cela, il y a eu beaucoup de manques à gagner au niveau de la mairie et à notre niveau aussi. La plupart des occupants de Guidandaka sont des manœuvres. Et tant qu'il n'y a pas d'activité, ils ne peuvent pas trouver de quoi manger. Quant à la municipalité, elle n'a pas pu recouvrer les taxes durant ces 2 semaines. Nos autorités régionales et même nationales se sont intéressées à la question, car c'est du nouveau pour nous. Nous n'avons jamais vu là où on a pesé des pierres au Niger, si ce n'est pas cette fois-ci. Et puis le montant demandé pour le faire, personne ne peut le supporter. Ceux qui apportent ces pierres ne sont pas des commerçants, ce sont des manœuvres. Chaque véhicule arrive avec 20 ou 15 personnes. À notre arrivée, on nous a arrêtés. On nous a demandé de payer 2 600 000 francs CFA. Cela nous a beaucoup étonnés et déstabilisés.
Restons toujours dans la région d'Agadez pour mettre l'État dans ses droits et expliquer aux contribuables leurs devoirs. Une mission gouvernementale va se rendre sur les différents sites d'orpaillage de la région. Les orpailleurs comptent réserver un accueil chaleureux à la mission et leur soutien dans le recouvrement des taxes et impôts. Baba Ahmed, vice-président du groupement des orpailleurs, est au micro de Anissé Karim.
Toutes les dispositions sont prises pour leur accueil et une meilleure collaboration au niveau des différents sites de Barakatin, Emsgar et Jado. Notre groupement a déjà informé tous les membres pour vraiment contribuer à faciliter à cette mission de faire leur travail et vraiment de contribuer dans les paiements des différentes taxes et impôts, ce qui va permettre vraiment à l'État de rentrer dans ses droits. Vraiment, c'est une aussi sécurité de notre part parce que déjà l'État a fait beaucoup d'efforts dans le cadre de la sécurisation de ces sites. Actuellement, le site d'Amsgar vient de bénéficier d'un détachement. C'est avec cet argent-là que l'État va payer les différents FDS pour la sécurisation de ces sites. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative. Tous les orpailleurs sont disposés à collaborer dans ce sens.
L'actualité est toujours en région. Le manque d'espace de pâturage, le problème de couloirs de passage, l'absence des aires de pâturage et le manque d'aliments bétail sont les facteurs qui minent l'élevage dans la commune de Fadjibirigi. Notre envoyé spécial Oumou Oumarou s'est entretenu avec Bonkan Oumarou, chef de l'éleveur de la commune de Fadjibirigi. On l'écoute.
Nous ne disposons pas assez d'espace pour faire paître nos animaux. Nous aimerions qu'on nous crée des zones de parcage, des points d'eau permanents pour abreuver les animaux lorsque le besoin se fait exprimer. Nous souhaiterons que les couloirs de passage soient bien balisés avec des indications pour orienter les usagers, car il y en a des couloirs de passage qui rentrent dans le bas-fond du Dalol, tandis que d'autres partent pour ailleurs. Nous avons besoin de l'aide en aliments bétail, puisque le son présentement est cher et n'est pas accessible à tous. Nos chefs coutumiers, en premier lieu le chef de canton, le maire et les acteurs impliqués dans le pastoralisme qu'ils nous aident de temps en temps afin qu'il y ait l'équité dans le mode opératoire d'indemnisation des dégâts champêtres et que règne la paix dans notre contrée.
Pendant ce temps, plusieurs villes du Niger, principalement Niamey et la capitale, n'ont plus de problème de livraison de poissons. La région de Diffa est la principale pourvoyeuse. Comment accompagner les acteurs de la filière poisson? C'est l'objectif d'une réunion tenue en fin de semaine au cabinet du gouverneur de la dite région. Détail avec le colonel Lawa Haruna, directeur régional de l'environnement. Il est au micro de Mani Moussa.
Rien qu'avec le poisson pêché dans la région de Diffa, nous pouvons avoir de 10 à 20 milliards de francs CFA par an à raison de 1000 francs le kilogramme. Ce n'est pas une richesse à négliger. Et s'il n'y a pas une bonne organisation du secteur, le citoyen ordinaire de Diffa n'aura rien, ainsi que l'État. Aussi, nous nous sommes dit, comme il y a la réglementation du gouvernement sur la pêche et la commercialisation du poisson, nous devons donc nous baser sur cette réglementation pour créer des voies et moyens légaux spécialement pour la région de Diffa afin de mettre l'État, les collectivités, les pêcheurs et la population chacun dans son droit.
Une autre réunion qui a regroupé autour du préfet de Tchirozérine dimanche 14 janvier, les autorités communales, les chefs des villages, les structures des jeunes et la société civile. Objectif à trouver des solutions aux problèmes qui minent l'unique complexe d'enseignement secondaire de la localité. Nassir Garba, proviseur du complexe d'enseignement secondaire, lance un appel aux bonnes volontés pour venir en aide à cet établissement. Il est au micro de Ahmed Félan.
L'importance de cette réunion est de réfléchir sur comment clôturer ce mur du CS. Maintenant, ce qu'il allait de faire, c'est chercher les financements donc au niveau des partenaires, au niveau des associations, des structures, des projets donc qui peuvent nous appuyer ensemble pour faire cette activité. Ce manque de mur nous cause énormément de problèmes de gestion parce qu'on n'arrive pas à gérer les flux des élèves. Les élèves peuvent sortir quand ils veulent et on n'arrive pas à les maîtriser. Et si on ne les maîtrise pas, là, ça peut causer vraiment énormément de problème pour nous. Il y a des passants, des motards qui passent aussi parfois à des heures de cours. Vraiment, on n'arrive pas à les maîtriser. Quand on parle du CS à Bakr, c'est le miroir même de la ville de Tchirozérine. C'est le miroir du département. C'est le seul CS du département.
Question humanitaire, le département de Gindjimi compte en 2023 30 000 réfugiés et déplacés. Ces personnes rencontrent plusieurs difficultés, parmi lesquelles la situation sécuritaire et le choc climatique. Malam Ousmane, président des réfugiés de Gindjimi, témoigne au micro de Maina Abdoulaye.
L'année 2023, l'on peut dire que c'est une année pendant laquelle le monde a rencontré une situation hors pair. C'est une année caractérisée par la cherté des vies et du manque de beaucoup de choses, car on peut dire qu'il n'y a même pas eu d'assistance à Ngengini. Et cela fait pitié. Vous allez rencontrer des femmes en train de mendier à certains endroits, d'autres travaillent comme domestiques dans des maisons, des jeunes qui mendient. J'ai jamais vu une pratique qui faisait des petits enfants par le passé. Mais de nos jours, des jeunes filles même font de la mendicité dans le marché. Nous souhaitons avoir un changement dans cette nouvelle année, qu'il y ait beaucoup plus d'assistance pour les réfugiés. Ils sont vraiment dans des besoins dans cette zone.
Du sport en bref, les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations ont débuté ce samedi 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. En match d'ouverture, le pays hôte a battu la Guinée-Bissau 2-0, deux équipes du groupe A. Hier dimanche, dans le groupe B, l'Égypte et le Mozambique ont fait match nul 2-2 et le Cap-Vert a battu le Ghana 2-1. Dans la même soirée, pour le compte du groupe A, le Nigeria et la Guinée équatoriale ont fait match nul 1-1. Aujourd'hui, lundi, nous avons au programme le Sénégal et la Gambie, le Cameroun contre la Guinée pour le compte du groupe C, ensuite l'Algérie contre l'Angola pour le groupe D. Notre partie magazine de ce lundi met l'accent sur la liberté provisoire. Le juriste interrogé à ce sujet nous explique les conditions dans lesquelles un détenu peut en bénéficier, mais aussi la nuance qui existe entre la liberté provisoire et la liberté conditionnelle. Dossier de notre correspondant Anissé Karim depuis Agadez.
La cour. L'audience est ouverte. Dans l'administration de la justice, les juges disposent du pouvoir discrétionnaire d'accorder ou pas une liberté provisoire aux personnes inculpées. En quoi consiste la liberté provisoire? Les précisions de Maître Ali Moussa.
Ce sont des mesures qui sont prévues dans le code de procédure pénale aux articles 133, 134 qui consistent à mettre provisoirement un inculpé ou une personne qui est devant principalement le juge d'instruction avant la fin de la procédure. Au moment du jugement, il comparaît pour être jugé. C'est un droit également pour ceux qui sont en détention de pouvoir demander cette liberté provisoire à toute étape de la procédure.
La mise à liberté provisoire d'un détenu ne s'accorde pas à la simple demande de l'intéressé ou de son conseiller. La loi fixe des garanties. Explique Maître Ali Moussa.
Le juge d'instruction s'accorde à vérifier si cette personne détenue présente des gages de représentativité. Généralement, si la personne n'a jamais fait la prison, on sait où il est, il a une fonction à exercer et qu'au moment où le juge voudra le revoir, il peut se représenter devant le juge. Donc quand il y a toutes ces garanties-là, le juge d'instruction peut accorder la liberté provisoire.
Parmi les termes juridiques en lien avec la relaxation d'un détenu, on peut citer aussi la liberté conditionnelle et le sursis. Il y a bien une nuance, voire même une différence entre les trois, précise Maître Ali Moussa.
D'abord, le sursis est prévu par les articles 676-77 du Code de procédure pénale et surtout, c'est une suspension de l'exécution de la peine, c'est-à-dire c'est une condamnation, mais qui n'ordonne pas la détention. Ça a un délai de 5 ans. Au bout de 5 ans, si vous répétez la même infraction ou une infraction similaire, quand on vous reprend, il y a des conséquences sérieuses. On révoque le sursis et généralement, on vous condamne même au double de la peine. Maintenant, la libération conditionnelle, c'est quand le condamné arrive à purger un certain nombre d'années de sa peine et s'il présente des gages sérieux, s'est bien comporté pendant son séjour carcéral, il peut émettre une demande de libération conditionnelle avec des conditions. Et cette libération est accordée par le ministre de la Justice, après avis du ministère de l'Intérieur, après la demande bien sûr du condamné. Maintenant, la liberté provisoire, on peut au moment du jugement vous rappeler pour revenir et recevoir votre condamnation, votre jugement.
Fin de ce journal, merci de votre attention. Tout de suite, à nos journaux en langue nationale à partir de 18h15, le forum de Studio Kalangou qui a pour thème « Comment mieux encadrer le secteur de la migration au Niger après l'abrogation de la loi 2015 qui criminalisait toutes les activités liées à la migration ». C'est un forum présenté par Mokhtar Amadou. Studio Kalangou.
à Difa,
Alternative FM 99.4 MHz à Zender,
Geskia FM 89.5 MHz à Maradi,
Sarawnia FM 102.1 MHz à Kyoto,
Bonferé Fuma 99 MHz.
Studio Kalangu.